de louanges, là, de jeunes qui ont eu un temps de séminaire pour eux. Et j'aimerais remercier toute l'équipe qui s'en est occupée, Alana pour ton impulsion et toutes les autres. Ils ont vraiment vécu un temps fort où ils apprennent à grandir dans la pratique de la musique et de l'écoute de Dieu. Et c'est vraiment une première qu'on aimerait reconduire et ouvrir peut-être plus. On verra. Et j'en profite pour donner au niveau du message de ce matin, l'idée c'est quelle est la vision de la louange que nous avons en tant qu'Église. Et je pense que c'est très important. Pardon ? Les jeunes s'étaient préparés pour des témoignages. Ça n'empêche pas que... Oui. Bon, ce que je vous propose, c'est que dimanche prochain, on continue le sujet. Et préparez vos témoignages pour dimanche prochain, peut-être. Parce que je vois que l'heure tourne, ça va être un peu difficile. Hein, voilà. Elisabeth qui dit merci Seigneur. Ils sont trop contents. Mais attention, dimanche prochain, on ne vous loupe pas. Hein. Voilà. J'aimerais qu'on prenne... Il y a trois versets que j'aimerais prendre. Hébreux 13, versets 15-16 déjà. Trois passages. Alors, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Premier texte. Deuxième texte, Éphésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Et un dernier passage, c'est Luc 10, 27. Et on connaît bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, à partir de ces textes, j'aimerais les développer. Mais donc, le sujet, c'est quelle est la vision que nous avons en tant qu'Église par rapport à la louange et l'adoration. Je pense qu'on a vécu beaucoup de choses déjà depuis des années. Et je pense que c'est bien de resituer un peu le cadre. J'espère que vous savez tous que nous sommes animés par une vision. Et une vision qui concerne plusieurs domaines. Et une vision, je profite pour rappeler cette vision, travailler ensemble à l'extension du royaume de Dieu, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on est là en fait, hein? Amener les hommes à une réconciliation avec Dieu, avec eux-mêmes, leurs proches, le monde, préparer le réveil en formant des ouvriers pour la moisson, en particulier la génération montante, et puis travailler à une réforme, c'est-à-dire une pénétration d'évangile dans toutes les sphères de la société, afin d'être sel et lumière. Alors, la vision s'exprime par un mandat, et le premier point de notre mandat, je le relis, amener tout le corps de l'Église locale à devenir un peuple d'adorateurs goûtant l'intimité avec Dieu et sa présence. Alors, il y a plusieurs mandats, mais ça c'est le premier, et les moyens que nous sommes donnés, eh bien déjà nous avons pu en expérimenter pas mal, contribuer à la restauration de ce qu'on appelle le tabernacle de David, encourager la formation et la pratique de la louange, ce qui s'est fait, le corps tout entier en particulier, les psalmistes, musiciens, danseurs, organisation de temps de célébration, formation biblique au niveau local, régional, national, et par la pratique de groupes de louange, etc. Donc, vous voyez, ça c'est ce que nous avions écrit il y a plusieurs années, et j'aimerais dire quand même que ça avance, les choses avancent, la vision que Dieu a mise sur nos cœurs au départ avance. Et j'aimerais illustrer un peu ça par un témoignage personnel. Vous savez, il se passe toujours des choses quand Dieu touche une vie, et surtout au début, au début il se passe des choses. Et avec Manuela, je me rappelle les premiers mois de conversion, il y a deux livres que j'ai découverts. Ça a été des best-sellers, et peut-être encore, mais deux livres qui ont marqué l'identité de chrétien que nous sommes. Et c'est un livre tout simple qui s'appelle, c'est le livre d'un officier de l'armée américaine, l'armée de l'air. Il était responsable de former les parachutistes et aumônier en même temps. Il s'appelait Merlin Carothers, qui a écrit De la prison à la louange, un best-seller. Qui c'est qui connaît ce livre? Levez la main quand même. Voilà, il y en a quand même quelques-uns. Hein. C'était dans les années 60, 80. Et c'était vraiment, ça fait un raz-de-marée. Et je constate qu'il est encore très disponible dans les maisons d'édition. Ça prouve que voilà, ça marche. Et puis Don Gossett, La force de la louange. Alors ça a été deux. Alors ça raconte des tas de témoignages de la vie de tous les jours, dans sa vie de militaire, etc., où la puissance de la louange débloque les situations, amène la guérison, amène la réconciliation. Bref, c'est un livre truffé d'exemples concrets de la puissance de la louange. Et après 20 ans et quelques, je pense qu'il est bon de se rappeler ces choses fondamentales. Alors on le pratique, mais parfois, 30 ans, oui, pardon, c'était 30 ans, oui, aïe, aïe, Seigneur, 30 ans. Donc, vous voyez, et je me dirais que ça a donné une trajectoire à notre vie. Et je me rappelle, avant la conversion, j'étais, vous savez, avec ma guitare, je faisais pleurer des gens, hein, facilement. Mes groupes d'amis, il me fallait à peu près 20 minutes, et en 20 minutes, je les faisais tous pleurer. C'était vraiment des soirées mémorables. Il y avait un esprit de tristesse qui m'animait, qui était extrêmement puissant, de dépression qui contamine tout le monde. C'était très fort. Je composais des chants extrêmement noirs. Et le jour où Dieu m'a touché, pendant un an, j'ai pas pu toucher à la guitare. J'ai pas pu toucher à la guitare. J'ai plus pu écouter rien du tout comme musique, sauf une cassette de louanges. Mais alors là, un vieux truc, maintenant j'écouterai ça, j'aurais du mal. Hein, mais voilà. Et ça a été comme une décontamination. Et puis Dieu a transmis autre chose. Et quand ensuite j'ai senti le feu vert pour reprendre la guitare, alors là, ben, c'est d'ailleurs comme ça, enfin c'est pas comme ça qu'on s'est connus avec Manuela, mais je lui donnais des cours de guitare. Et j'ai présenté cette jeune fille à mes parents comme étant mon élève en guitare. Et bien sûr, c'était plus qu'une élève, déjà. Hein. Et ensuite, voilà, l'élève, vous voyez, alors la pauvre, j'ai peut-être pas trop encouragé. Je lui ai dit, tout ce que tu as appris, ça va pas, il faut recommencer à zéro. Et du coup, elle a abandonné. Mais elle a pris le guitariste. C'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Alors, vous voyez, donc la force de la louange. Et tout au début, on avait pas d'église, on ne savait même pas ce que c'était une église. Alors, on avait fréquenté le groupe du Chemin Neuf, un catholique, donc à Lyon. Et là, il y avait des temps de louange qui étaient vraiment particulièrement forts. Et là, on a commencé à découvrir la dimension de la louange. Et donc, peut-être vous avez déjà entendu ce témoignage, mais arrivé jeune marié, avec déjà un bébé en route qui commençait là à Mulhouse, eh bien, j'avais 9 heures d'enseignement donc, dans le public, donc on avait du temps pour enseigner, et pour louer Dieu. Et là, on prenait des heures par jour pour louer le Seigneur. Et après coup, on s'est rendu compte que dans ces temps d'intimité et de louange, eh bien, Dieu semait des choses pour le ministère futur. Et ça, j'aimerais dire, c'est très important. Dans l'ADN du chrétien, eh bien, il y a la louange. Et ce n'est pas la louange, bien sûr, le dimanche matin, c'est bien, mais c'est la louange tout le temps. Et je me rappelle, il y a un chant que j'avais composé qui était Adonai. On a chanté ce matin. Et alors que j'avais perdu le travail, parce que dans le public, ils m'ont dit, hein, ou vous continuez vos réunions d'évangélisation à Mulhouse, ou vous démissionnez tout de suite. Et donc j'ai perdu le travail. On a perdu le logement où nous étions, qui appartenait à la grand-mère. Et le premier fils qui est né, on ne voulait pas le faire baptiser, donc elle a dit dehors. Donc on n'avait plus de logement, plus de travail, il n'y avait plus rien. Et là, j'ai pris la guitare et un chant qui est venu, puis je me rappelle un peu les paroles. Quand je perdrai mon travail, quand je perdrai ma vie, je t'adorerai Seigneur, etc. Un jour on vous le chantera. Donc, la louange dans les situations difficiles, on s'est retrouvé quand même 2 fois dans ce genre de situation. Donc, et là, c'était une école de la foi et une école de la reconnaissance. Et dans Hébreux 13, ce qu'on vient de lire, lorsqu'il est dit cette mise en commun entre deux domaines qui nous semblent vraiment très différents, mais qui ne le sont pas, lorsqu'il est dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange », c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, c'est l'épître aux Hébreux. Donc les Hébreux, la question des Hébreux, c'était, mais est-ce qu'avec maintenant cette foi en Jésus-Christ, est-ce qu'il n'y a plus de sacrifices à faire? C'était ça la question. Est-ce qu'il n'y a plus à offrir des sacrifices dans le temple, tout ça? Et là, la réponse, n'y a pas les mêmes sacrifices. Mais Dieu exige encore des sacrifices. Mais ce n'est pas les mêmes. C'est un sacrifice de louange que Dieu exige maintenant dans son temple. Et ce sacrifice de louange, il est mis en rapport avec la bienfaisance. Et là, j'aimerais souligner ça. Ça veut dire que le sacrifice de louange, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un sacrifice en parole et ça veut dire un sacrifice en action. Et la louange, la vision de la louange de l'Église, c'est la parole chantée et c'est la parole incarnée, vécue, en particulier par cette œuvre qui se lève, Caleb, les vêtements, etc., le social, ça fait partie de la vision de la louange. Ce n'est pas la louange d'un côté et la bienfaisance de l'autre. C'est à cause de la louange, il y a la bienfaisance et il y a tout le reste d'ailleurs. Donc la louange en action, et rappelez-vous la parole qui nous dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Donc l'expression de la louange qui est une expression verticale vers Dieu, elle n'est authentique que si elle est accompagnée d'une expression horizontale de notre louange qui consiste à reconnaître dans chaque être humain l'image de Dieu, et cette image, on veut la chérir, on veut la respecter, on veut l'honorer, et c'est pour ça qu'on arrive à faire ces œuvres de bienfaisance qui sont aussi un acte d'adoration. Donc c'est intéressant de voir que l'adoration implique l'action qui honore Dieu. Jean 1, 27, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Et rappelez-vous, Ésaïe aussi, lorsqu'il est dit le jeûne, le rite du jeûne, eh bien, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que tu ailles libérer les prisonniers. Donc la vision de la louange, ce n'est pas une vision seulement verticale, c'est-à-dire la louange adressée à Dieu, mais c'est une louange qui est une louange en action, et j'adore Dieu dans ma pratique de ma vie chrétienne, de l'Évangile, envers mes semblables. C'est un acte d'adoration. Donc, plus l'adoration verticale montera, plus elle se traduira en action horizontale, et plus il y aura d'action horizontale, plus il y aura aussi de louange verticale. Ça, c'est les choses indispensables. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle un peu le mysticisme. Voyez. Donc, on est à fond pour une louange charismatique, comme on a eu ce matin, etc. Et développer l'esprit prophétique, etc. Et en même temps, être prophétique, ça va vouloir dire se tourner vers nos contemporains et agir. Voilà, donc cette vision, un premier élément de la vision de l'Église, la louange. Une autre vision qui est importante, Éphésiens 5, lorsqu'il est dit « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus », c'est en fait une culture de louange, c'est une culture de reconnaissance. Et là, j'aimerais dire une chose qui est très importante, c'est que quand on chante le dimanche matin à Dieu, on active un esprit de reconnaissance. Et cet esprit de reconnaissance, on aimerait le vivre, bien sûr, tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. On n'est pas naturellement reconnaissant. Ce n'est pas vrai. On ne l'est pas naturellement. La reconnaissance se cultive. Et on pourrait faire des exercices. On ne va pas le faire, rassurez-vous, mais on pourrait. On pourrait prendre n'importe qui dans l'assemblée, le mettre au milieu et dire, voilà, dis ta reconnaissance à Dieu. Qu'est-ce qui arriverait ? Alors, peut-être il y en a qui disent, mais moi, j'ose pas, j'ai la reconnaissance dans le cœur. Ils ne sauraient pas quoi dire. Vous voyez, essayez de voir quels seraient les mots de reconnaissance que tu as à dire, qui t'appartiennent personnellement, qui sont de toi. Quelle est la reconnaissance qui monte de ton cœur par rapport à ce que tu as vécu cette semaine ? Où est ta reconnaissance ? Et ça, c'est la louange. Ça, c'est la vraie louange. La louange n'est pas le chant. La louange est l'expression d'un cœur reconnaissant. Et cette reconnaissance s'exprime par le chant. Et je vous invite, si on veut rentrer dans une plus grande adoration, à cultiver une plus grande reconnaissance. Il y a un auteur anglais, qui est bien connu, Shakespeare, dans Le Roi Lear, il disait ceci, je cite, « Ingratitude, toi, démon, au cœur de marbre, combien plus aigu que la dent d'un serpent est un enfant sans reconnaissance. » Sans reconnaissance, c'est la porte ouverte à tout. Et attention, en tant que chrétien, à cultiver la reconnaissance. Ça me paraît fondamental si on veut développer l'esprit d'adoration. Quand Dieu dit « je cherche des adorateurs », Ça commence par la reconnaissance. On veut cultiver. L'esprit prophétique, il commence par être cultivé au niveau de l'esprit de reconnaissance.
Alors par rapport à la reconnaissance, il y en a qui disent, ben, Luc a dit, bon, ben, on va remercier Dieu pour ce que j'ai vécu dans la semaine. Il y en a peut-être qui vont dire, mais moi, je vois rien de positif dans ce que j'ai vécu dans ma semaine. Comment est-ce que je pourrais être reconnaissant? Et c'est là où la parole nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que tu vois seulement dans le naturel. Ce n'est pas ce que tu ressens. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce qu'il dit de toi et ce qu'il dit de tes circonstances et ce qu'il dit de lui. Et ce qui veut dire que la reconnaissance, elle n'a pas seulement pour base nos expériences. La reconnaissance, elle a aussi une base de foi. Elle a la base de la parole de Dieu. Donc, si vous ne savez pas et si vous vous dites « mais je n'ai pas de reconnaissance en moi », eh bien demandez au Saint-Esprit de vous aider et prenez des promesses de la parole. Par exemple, vous êtes triste, et bien cherchez quel est l'antidote dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit « ta joie sera ma force ». Alors commencez à proclamer « la joie du Seigneur est ma force ». Merci Seigneur pour ta joie. Avant même que vous la ressentiez, et vous allez voir. Vous allez voir le matin, vous dites « Seigneur, la joie de l'Éternel est ma force. Merci pour ta joie ». Alors peut-être qu'au début, vous allez dire « Seigneur, merci pour ta joie, elle est ma force ». Peut-être qu'au début, mais et commencez à mettre votre corps avec. Soyez reconnaissant de tout votre être. Par exemple, il y en a qui disent « moi j'ai peur ». Moi, je Edia m'a dit « celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est l'esprit de reconnaissance. Ça, c'est l'esprit de reconnaissance. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous allez dire ça, boum, l'ennemi s'en prend une. Et vous savez, il est dit que la louange est une arme. La reconnaissance est une arme. Il est dit, louez l'Éternel et vous serez délivrés de tous vos ennemis. De tous vos ennemis. De tous vos ennemis. Donc pour chaque fois où l'ennemi vous envoie une vague, demandez Saint-Esprit, quelle est la parole ? Il est dit que la parole, elle est une arme. Quelle est ta parole? Voilà, l'esprit de reconnaissance, c'est ça. Et la Bible, on l'a tous. Donc on peut tous prendre la parole et l'utiliser et être reconnaissant. Merci Seigneur pour ta parole. Alors il y en a peut-être qui ne vont pas être expansifs comme moi, c'est pas grave. Ce qui est important, quand vous le dites de votre bouche, ça rentre dans votre cœur. Et si la parole de Dieu rentre dans votre cœur, vos ennemis, les ennemis de vos amis vont sortir de votre cœur.
Alors vous voyez, il y a le côté espagnol de Manuela aussi que j'aime beaucoup, c'est quand elle tape du pied en même temps qu'elle dit des vérités. Et bien ça c'est, vous verriez des flamencos, ils sont toujours en train de... Et nous on écrase sous nos pieds, on sait qui c'est qu'on écrase. Hein. Donc je crois qu'on a fait des efforts dans la danse, mais peut-être dans le fait de jeu de pieds sur le sol, il faut apprendre encore des choses. C'est pour ça que j'aime bien le flamenco, hein, voilà. Mais un chrétien, bien sûr, racheté, hein, racheté. Alors, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Et le premier, c'est reconnaissance pour les bénédictions reçues. Alors, il y en a tous, on a tous reçu des bénédictions. Et c'est la reconnaissance qui, en fait, elle suit les choses qui se sont passées. Il y a une bénédiction, la reconnaissance. C'est pas évident déjà ça. Hein. Une bénédiction, parfois, on ne les voit pas. Elles sont habituelles, on s'habitue. Mais ça suit les faits. Et puis, le deuxième niveau, c'est la reconnaissance dans l'espérance d'une bénédiction et d'une victoire qui ne sont pas encore là. Donc ça, c'est un autre degré de reconnaissance. C'est une reconnaissance basée sur l'espérance et les promesses de Dieu. Donc ici, la reconnaissance, elle précède les faits. Et il y a un bon exemple dans la Bible avec Jésus. En Jean 11, ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, elle cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le à eux. Donc la reconnaissance de Jésus a précédé la délivrance. Et ça, c'est un autre niveau de reconnaissance. On pourrait l'appeler reconnaissance prophétique. Mais si on est un peu prophétique, on ne peut être que reconnaissant. Parce qu'on est appelé à voir les choses qui ne sont pas encore. Alors, on voit ça aussi dans 2 Chroniques 20. Au moment où il commence les louanges, l'Éternel place des embuscades. Donc, la louange a précédé la délivrance. Et vous avez un autre niveau qui est de reconnaissance, c'est en plein milieu de l'épreuve, de la difficulté. Alors là, t'es en plein dedans, quoi. C'est difficile. Et je vois Daniel, par exemple, on dit on interdit les Juifs d'adorer Dieu. Et Daniel, au milieu de cette interdiction, risquait sa vie. Il ouvre les fenêtres de sa maison et il devait 3 fois par jour, pour que tout le monde le voit bien, il loue Dieu. Ça, c'est un autre type de reconnaissance et de louange. Et nous avons ici quelque chose de très fort. Je pense à ces chrétiens algériens, là, il y a quelques années, quand j'y avais été, vous savez, c'était pas évident. Hein, et là, ils ouvrent les fenêtres, ils louent Dieu, la maison tremble, ça tremble de louange, et vous avez un contexte musulman partout autour. Mais ils sont fiers d'aimer leur Dieu de cette façon. Et on voit ça dans les pays aussi d'Afrique francophone. Cette louange africaine si forte, dans un climat parfois, je pense au Mali, tellement dur. Non, la reconnaissance dans la difficulté. Et moi, j'ai vu dernièrement, quand j'étais au Tchad, en septembre, j'ai vu des enseignantes donc louer Dieu tous ensemble. Et puis, visiblement, ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Ils n'avaient rien. Mais cette louange qui est montée à Dieu, là, ils n'ont rien. Je vous assure, ça fait quelque chose, quoi. On sent que leur reconnaissance n'est pas basée sur des faits ou des situations. Et j'aimerais, par rapport à la vision de l'Église, il y a un autre type de reconnaissance que certains connaissent, mais qui me paraît déterminant, et parce qu'il est, la plupart du temps oublié. Eh bien, on trouve ça dans Romains 1, c'est un rappel pour plusieurs. Lorsqu'il est dit, 1:21, « Ayant connu Dieu, ils ont refusé de lui rendre grâce, et ils se sont égarés dans leurs raisonnements. » Ils l'ont connu, Dieu, comment ? Par la création. La Bible me dit que la création, elle parle de la gloire de Dieu. Et cette création, les hommes ont refusé de reconnaître la marque du Créateur d'après la création. Et donc, ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leurs raisonnements. La création, elle est là pourquoi ? Pour qu'on reconnaisse le Créateur. La reconnaissance, c'est aussi une façon de connaître la création juste, qui nous amène à reconnaître. Et je rappelle cette grande phrase qui m'a bouleversé, de Paul Claudel, qui dit « la connaissance qui amène à la reconnaissance ». Et dans ce pays de France, les instituts de formation, c'est pour ça qu'on soutient tellement les écoles chrétiennes, parce qu'il y a une question d'adoration qui est là directement, et c'est une vision particulière à ici, j'aimerais bien qu'un jour ça soit une affaire commune à tout le monde, c'est qu'une adoration, c'est aussi adorer avec toute notre pensée, la formation de la pensée, à reconnaître Dieu dans sa création. Et ça, c'est l'école, ça, c'est les programmes scolaires, et ça, c'est les programmes universitaires. Et tant que l'Église ne s'occupe pas de ces choses-là, on ne lève pas des adorateurs, parce qu'ils n'apprennent pas à reconnaître le Créateur dans sa création. Ils ne rendent pas grâce d'un cours de biologie, d'un cours d'histoire, ils ne rendent pas grâce après ce cours parce qu'ils ne voient pas Dieu dans la création. Et ne pas voir Dieu dans la création, c'est obscurci là-dedans. Et c'est le début de la perte de l'adoration. Donc on voit cet exemple extraordinaire. Un homme dans la Bible était profondément découragé à un moment parce qu'il a tout perdu. Et vous savez, et c'était un adorateur. Et il s'agissait de Job. Job était un adorateur. Même quand il a perdu ses enfants, sa femme, il a continué à offrir des sacrifices d'adoration à Dieu. Intéressant. Alors, bon, ça vacillait, c'était pas facile. Et ses copains essayent de l'entraîner, de l'encourager, de dire, mais écoute, c'est sûrement que tu as péché, c'est sûrement qu'il y a un problème, c'est pas possible que tu sois pas béni comme ça. Tu t'es coupé dans ta relation avec Dieu. Mais tout va comme ça, donc il ne se relève pas quelque part. Jusqu'à ce que Dieu prenne la parole. Dieu aurait très bien pu dire, mais je vais te consoler, Job. Je vais te consoler, tu as perdu, mais je vais te redonner ce que tu as perdu. Non, Dieu ne s'est pas pris comme ça. Et si vous relisez bien les chapitres 38 à 40, 41, Dieu dit à Job, regarde la création. Regarde la création. Regarde, est-ce que tu étais là quand j'ai créé les cieux? Dans les concerts de louanges? D'ailleurs, chaque fois qu'il y a adoration, il y a création. Même aujourd'hui encore, quand on loue. Hein, il y a une... Donc, et puis, il lui dit, mais regarde maintenant, regarde le ciel, regarde la mer. Imaginez, il parle à un gars qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants, qui est malade et qui est en train de mourir. Et il lui dit, regarde le ciel, regarde la mer, regarde la neige, regarde le lion, regarde les biches, regarde le buffle, regarde le cheval, regarde l'hippopotame, regarde le crocodile. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est hors sujet. C'est pas comme ça qu'on va consoler quelqu'un. Mais Job, Dieu lui a décrit sa création. Et au bout de plusieurs chapitres, parce qu'il a fallu du temps, Job, il dit, eh ben voilà, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, ils te voient. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu dans la création. Le combat spirituel dans notre pays consiste à refuser que les enfants voient Dieu dans la création. Et nous avons, en tant qu'Église, une responsabilité d'être des adorateurs qui nous impliquons dans l'éducation, dans la formation, parce que c'est la même chose, c'est de l'adoration que l'on rend à Dieu. La consolation de la France viendra quand des yeux commenceront à voir la création comme Dieu la voit. Profonde consolation. Une profonde consolation. C'est pour ça que c'est tellement particulier, cette notion, et on voit ça dans Apocalypse 4, hein, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange, l'adoration, car tu as créé toutes choses. Et c'est justement cette création de toutes choses qui est refusée dans toutes les écoles. On peut parler de tout, mais si tu commences à parler d'un Dieu créateur, t'es viré. Le combat spirituel là-dedans est tellement important, mes amis. Tellement important. Mais merci Seigneur qu'on ait la liberté encore dans ce pays de faire autrement. Ça, c'est extraordinaire. Liberté de faire autrement. Et prenons cette liberté et cette responsabilité. Et vraiment, j'aspire. Mardi, pas ce mardi-là, mais le mardi 15, pensez à moi. Je suis à Lyon pour une réunion du Conseil national des évangéliques de France au niveau des œuvres, les responsables d'œuvres. Donc moi, j'y vais en tant que responsable du réseau des écoles chrétiennes. Et là, on va mettre au point les futurs débats à discuter au niveau national. Et moi, je vais mettre sur la table le problème de l'école. Je dis, mes amis, il faut qu'on discute là. Il faut qu'on discute. Et ça, c'est vraiment un sujet de prière. Si vraiment vous pouvez penser à ça, ce sera le mardi 15 mars, 2 jours avant que je parte pour l'Afrique du Sud. Et là, il y a un endroit stratégique. Et je sens déjà des relations de confiance qui existent. Mais maintenant, on va ouvrir le débat. Hein. C'est ça qui est important. Donc, c'est une question d'adoration. Une question d'adoration. Alors, Job est un adorateur. Satan cherche à voler l'adoration. Écoutez-moi bien maintenant, s'il arrive à voler l'adoration, il vole la destinée. Nous étions quelques jours à Paris avec Manuela et Stella, et vous savez, on est rentré dans un des plus grands magasins, l'un des plus anciens, des plus beaux d'ailleurs, il faut aller le voir si vous n'êtes pas allé le voir, les Galeries Lafayette là-bas. C'est un truc énorme, énorme. Vincent, l'écho, énorme. Voilà, voilà. Et là, vous avez tout un rez-de-chaussée avec les parfums de Paris. Et on est connu pour nos parfums. Et ça nous parle de l'adoration, le parfum d'adoration que Dieu veut retrouver dans ce pays. Le parfum d'adoration qu'il veut relever. Mais si Satan arrive à t'enlever ton adoration, il enlève ta destinée. Il a essayé d'enlever l'adoration de la France, une adoration extrême. Comme David, avec des danses, avec des sauts, avec des cris. Une adoration libre, une adoration folle, pas du tout rationaliste, hein, mais une adoration extravagante. Et bien cette adoration-là, Dieu veut la rétablir dans ce pays. afin que les parfums soient pas simplement dans les galeries Lafayette, mais les parfums se trouvent partout répandus dans la nation. Ça, c'est l'adoration. Et puis, donc, autre élément, c'est la notion de restauration du tabernacle de David. Alors, rappelez-vous, ce tabernacle, contrairement à l'Arche d'Alliance, tout ça, où il y avait le tabernacle qui était le tabernacle de Moïse, où il fallait, tout le monde n'avait pas accès au Saint des Saints. Tout d'un coup, David arrive et dit, tout le monde peut arriver à l'Arche. C'est incroyable, cette histoire. Il prophétise le sacerdoce universel des milliers d'années avant. Il annonce l'adoration libre pour tout le monde, mais qui était quand même très bien organisée, parce que c'était pas n'importe quoi, c'était organisé. Les prophètes étaient responsables d'adoration. C'est d'ailleurs pour ça que Manuela est responsable de la louange au niveau de l'Église, parce que c'est pas les talents musicaux seulement ou les talents machin, mais c'est l'onction, le ministère de prophète qui est important pour l'idée et pour pas pour tout faire, mais pour être là et libérer une adoration authentique. Donc on voit que David, il nommait ses prophètes, il nommait les chefs musiciens, tout était organisé, et ça, c'est le tabernacle qui a donné une adoration 24 heures sur 24 et qui a permis, vous le savez, que les frontières s'éloignent, qu'il y ait la paix sur la nation, etc. Donc la participation de France en Feu, tous les mois, ces tabernacles de louange, ce coup de boutoir qui va être donné là bientôt en mars, sont très importants. Plusieurs sont venus ici et nous ont dit, encore le dernier tabernacle, pas des gens de l'Église, hein, mais plusieurs, il y a des choses qui se passent ici qui ont une répercussion sur le pays dans l'adoration. Il se passe des choses. Et vous remarquez bien, ça fait plusieurs fois, même longtemps, qu'au bout d'un temps d'adoration, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On est comme dans les hauts lieux là, et on se sent fort de la force de Dieu, et on commence. Alors l'adoration, c'est un mouvement montant. Ensuite, quand on est en haut, on règne. Et ce règne, qu'est-ce qui se passe? C'est psaume 149. J'ai les paroles dans ta bouche, les jugements, l'épée dans la main, et je prononce les jugements écrits sur l'ennemi. Et ça, on rentre dans une intercession prophétique, mais qui part pas d'en bas, qui part d'en haut. Et ça, je crois que c'est un rôle dans les tabernacles de David, l'exercice de l'autorité de Dieu. Et quand on a les bâtons, par exemple, ça nous parle vraiment de ça. Donc ces tabernacles, c'est la vision de l'Église, on veut vraiment les continuer. On veut développer plus de groupes de louanges pour qu'on puisse aussi aller plus loin. On veut développer différentes couleurs, parce qu'il n'y a pas qu'une couleur dans la louange. Moi, je crois qu'il y a de la couleur. On a quelques couleurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que Dieu veut donner. Et même de la couleur, je dirais, peut-être pour toutes les générations, pour différentes compositions. Ça peut être très classique, ça peut être très moderne. Et je crois qu'il faut qu'on y aille dans ces domaines et que chacun aille jusqu'au bout de ce que Dieu lui a donné. Donc, restauration du tabernacle de David. On veut continuer. Et acte 15, versets 15 à 17, il est dit que la tente de David sera relevée. C'est quoi le but? C'est qu'on passe du bon temps? C'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Et ça, c'est la louange qui ouvre la porte des nations. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est pour ça qu'il y a des drapeaux. Ce n'est pas pour faire le folklore. Parce que Dieu nous dit, vous êtes une maison de prière pour les nations. L'adoration, le tabernacle de David, il est dit, eh bien, ça touche les nations. C'est ça qui est important. Donc on veut toucher les nations. Et l'identité, on voit dans la Bible, par exemple, dans Acte 2, ils étaient tous dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie, ils louaient Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est incroyable. Donc, ils s'occupaient de louer Dieu, de servir Dieu comme ça, et puis le Seigneur, il amène. La louange, elle ouvre la porte de la mission. Acte 2, 12, 2 aussi, 1 et 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout d'un coup vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la maison? Ils louaient Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens de toutes les tribus, de toutes les nations sont venus et ont été touchés. Et je termine par ce dernier point, et je pense que c'est très important pour eux, en tant qu'Église aussi, nous croyons que la louange et l'esprit d'adoration développent l'esprit de révélation. Et tu vois.
dans le point précédent par rapport à l'histoire de l'Église. Donc c'est vrai que l'Église, elle est vraiment née par l'adoration. Je voulais souligner deux choses. On a passé les 8 premières années sans local. Et le Seigneur nous avait clairement dit, en fait, je vous emmène de village en village parce que je veux établir des hôtels d'adoration. Et comme ça, Dieu nous a baladés régulièrement dans tout notre périmètre. Donc le périmètre de l'Église, pour nous, de notre communauté, va jusqu'à Roufac, jusqu'à Cernay et toute la vallée de Guebwiller. Et il nous est arrivé parfois de ne pas avoir de local, et alors Dieu nous emmenait en haut sur la montagne. Et on est allé régulièrement adorer tous ensemble et faire le culte sur la montagne. D'ailleurs, on devrait y retourner parfois, même si on n'a pas de local. Donc ça, c'est une chose. Et une autre marque aussi forte pour l'Église, qui était très forte quand on a démarré l'Église, tous... On savait que Dieu voulait toutes les générations dans sa présence. Et on s'est battus, les enfants, les jeunes, parce qu'on vous voulait avec nous. Parce que dans les églises traditionnelles qu'on avait fréquentées, c'était « Oh ben non, les enfants, on va les mettre à côté parce qu'ils dérangent. » Non. Nous, on dit « Mais... » Puis il y a eu des familles qui étaient radicales, qui disaient « Ah ben là, moi si c'est ça, hein, je quitte l'église. Hein. » Donc on avait ces familles radicales, c'est la louange, mais dans la louange, eh ben, je suis contente de voir ma petite fille Daria qui est là avec nous. Et je peux vous assurer qu'elle ne perd rien, elle a que 6 mois, mais elle est au fait de tout. Dans la louange, Dieu veut toutes les générations. Et il est dit, vous savez, quand il y avait eu les jeûnes dans la Bible, ben, ils jeûnaient, ils appelaient les enfants, même ceux qui étaient à la mamelle encore, tout le monde. Dieu nous attend en famille dans sa présence. Donc ça, voilà. Et donc, la restauration du tabernacle et de la tente de David, eh bien, après, ça s'est continué. Ben, maintenant, il y a les tabernacles, c'est vrai. Et petit à petit, on sait que maintenant, là où nous en sommes, eh bien, c'est vraiment le 24 heures sur 24. On y va tout doucement, mais sûrement. Et on sait que, alors qu'on préparait l'autre jour pour l'école de langue, vous savez, vous vous souvenez, on a prié pour les différents temps dans l'église, les différents secteurs, vous vous souvenez ? On a prié pour la crèche, on a prié pour l'école de langue. Ben, morale de l'histoire, ça a bougé au niveau de l'école de langue. Et en faisant le programme, on se disait, mais on veut apprendre le français à des missionnaires qui vont venir de partout. Et on sentait vraiment le cœur de Dieu, mais c'est qu'ils vont s'impliquer dans la maison de prière. C'est le temps pour la maison de prière 24 heures sur 24. Parce que ce que Dieu veut faire est tellement grand, ça ne pourra pas se faire si on n'est pas dans la présence de Dieu, s'il n'y a pas cette louange et cette adoration 24 heures sur 24. C'est ça qui va maintenant nous amener dans cette nouvelle dimension que Dieu a pour l'Église. Donc voilà, d'abord il nous a pris en itinérant et il a marqué notre territoire. Ensuite, il nous a donné un lieu et on était content de se retrouver tous ensemble. Il nous a mis tous ensemble, des familles entières. Mais maintenant, on veut vraiment mettre notre foi en action et dire, Seigneur, on veut y aller. Et on ne peut pas y aller sans les jeunes, parce que c'est eux qui ont l'énergie pour être encore là à 2h, 3h du matin, à louer Dieu, n'est-ce pas ? À 4h, à 5h. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième point.
Bon, je termine. Hein, juste dans Matthieu 26, c'est Richard Reis qui nous disait ça, mais ça m'a beaucoup touché, cette histoire. Cette femme qui vient avec le vase vers Jésus et qui brise ce vase. Et bon, les disciples qui disent, mais écoute, on pourrait mettre cet argent autre part. Plutôt, elle gaspille. Et Jésus qui dit, en vérité, en répandant ce parfum sur mon corps, elle m'a fait pour ma sépulture. Et rappelez-vous ce qu'il nous disait. Il nous disait, les disciples, ils n'avaient pas compris vraiment que Jésus allait mourir, etc. Mais elle savait. Qu'est-ce qui était la différence entre les disciples et elle ? C'est qu'elle était une adoratrice. Et dans l'adoration, Dieu lui a révélé ce qui allait se passer. Elle était la seule. Donc Dieu révèle à ses adorateurs son cœur, ses projets, etc. Et ça me paraît très important. Donc voilà un peu quelques balises par rapport à la louange de l'Église. On en est loin encore de la maturité, mais on y va. En tout cas, c'est le cœur. Et je crois vraiment que tout ce qui démarre comme œuvre, comme tout, d'un climat de reconnaissance et d'adoration, c'est quelque chose d'indestructible. On ne veut pas faire pour faire, on veut faire parce que ça bouillonne. Et il y a de la reconnaissance, et alors on y va. Seigneur, merci pour cet merveilleux instrument que tu nous donnes, de la voix, des instruments aussi qui ont été faits, de la reconnaissance, Seigneur. Merci parce que en nous demandant de te louer, c'est nous-mêmes qui sommes bénis, c'est nous-mêmes qui sommes délivrés, c'est nous-mêmes qui sommes guéris. Seigneur, merci. Je te prie de nous aider à cultiver cette reconnaissance, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies de tous les jours, dans notre travail. Que ce niveau de reconnaissance continue de monter, Seigneur. Merci Jésus. Et j'appelle ta bénédiction sur chacun ce matin. Seigneur, que nous puissions vivre une semaine où l'on te voit à l'œuvre, où on reconnaisse l'œuvre de tes mains, même dans les toutes petites choses, afin que la reconnaissance, l'adoration monte comme un parfum et se répande sur ce pays. Et nous te prions pour notre pays, Seigneur, et je te prie pour mes bien-aimés là qui font le tour des départements, et nous te prions de bénir leur trajet encore, de les guider et de faire d'eux une source de bénédiction, un bon parfum de Christ sur ce pays, un parfum, une œuvre de grâce sur la nation. Seigneur, merci pour tous les hommes et les femmes que tu as appelés à se lever pour bénir et pour libérer la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà. Amen.